Je m'explique un peu, parce que ça, c'est important à saisir. Il faut bien comprendre, hein, que la philosophie, elle a deux sources. Une philosophie réaliste, elle a deux sources. Elle a une première source auprès de ce que les philosophes ont déjà dit. Parce que nous sommes dans le temps, il faut bien reconnaître. Hein. Il y a eu des gens qui ont pensé avant nous. Enfin, il ne faut pas avoir la prétention de dire « je vais tout découvrir de tout ce qui a été dit avant moi ». Non, il faut se servir de ce que les autres ont dit avant nous. Ils ne sont pas des imbéciles. Ils ont quand même pensé. Alors on peut se servir d'eux. Donc il y a une première source qui est les philosophes. Les philosophes qui ont existé avant moi. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour nous que pour Aristote, parce que pour Aristote, il n'y en avait pas beaucoup. Tandis que pour nous, il y en a des quantités. Ça s'est multiplié, extraordinairement, le sort des philosophes. Les a... Du temps d'Aristote, il y avait un ou deux philosophes, il y avait une dizaine de philosophes avant lui. C'était pas grand-chose. Il y avait Socrate, il y avait Platon, puis il y avait tous les présocratiques, mais c'est pas énorme. Tandis que nous, si nous faisons l'Olympe des philosophes, hein, ça fait un gros bouquin énorme, voir tous les philosophes qui existent. Bon, ça reste quand même une source. On doit toujours être attentif à ce dialogue avec les philosophes. Et puis, ça c'est la première source. Et la seconde source, qui est principale, là on devrait dire l'inverse, hein, deuxième 1, j'inverse, l'expérience. Vous comprenez que si je ne prenais que la source des philosophes, je ferais de l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée. Et puis je verrais que les opinions des philosophes sont très diverses. Alors je ne saurais pas où aller. Je dirais très bien, vous voyez, il y a un courant aristotélicien, il y a un courant platonicien, il y a un courant cartésien, il y a un courant, et si je montrerai tous les courants. C'est très intéressant de voir tous ces courants, mais je vois la diversité. Je vois que devant un sujet aussi important que représente la philosophie première, il y a des positions très diverses. Je resterai donc dans la diversité des opinions. Et quand je reste dans la diversité des opinions, il n'y a pas de raison d'opter. Alors j'opterai en fonction d'une sympathie. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis né en connaturalité avec Aristote. Sans doute que je suis sous le même signe des étoiles et des astres. Alors je suis né en connaturalité. C'est vrai, il y a des gens qui sont en connaturalité aristotélicien et il y a des gens qui sont en connaturalité platonicien. Il y a un facteur affectif là-dessus qui est très très grand, qui est très difficile à soulever. Il y en a qui sont nés sous la planète de Platon, comme vous le dites. Alors ils seront platoniciens. Puis il y en aura qui seront heideggeriens instinctivement. Souvent c'est parce que c'est le dernier. C'est le dernier grand philosophe, il ne faut pas être en retard, donc soyons heideggeriens. Ça fait mieux. Tandis qu'Aristote et Platon ne sont pas même anciens. Alors ils sont des vieux. Ils sont des vieux. Oui, ils sont des vieux, mais qui ont fait leur épreuve. Est-ce que dans 1000 ans, on parlera encore de Heidegger comme on parle d'Aristote et de Platon? Il faudra voir. Hein. Nous verrons ça dans 1000 ans. Au ciel, nous verrons, tiens. On en parle encore pas mal, ça. Autrement, dans 1000 ans ou dans 2000 ans, on n'en parlera peut-être plus du tout. L'épreuve du temps est terrible. Hein. L'épreuve du temps est terrible, parce que les questions actuelles, c'est les propagandes. Nous vivons un siècle de propagande. Vous savez. Grasset disait qu'il lançait le roman qu'il voulait, selon la propagande qu'il faisait. Si c'était pas trop mauvais, évidemment. Mais si c'était pas trop mauvais, il pouvait lancer le roman qu'il voulait. Et grâce à la propagande. Tellement les gens sont incapables de penser par eux-mêmes. Et c'est très très vrai. Les gens pensent en fonction des propagandes. Évidemment, de la part d'un éditeur, dire ça, c'est assez joli, je trouve, d'affirmer cela. Alors, nous voulons, en tant que philosophes, hein, en tant que nous voulons être intelligents, nous ne voulons pas être à l'arborque de telle ou telle des propagandes. Et c'est pour ça qu'il y a une source, c'est de regarder la pensée des philosophes, mais nous revenons toujours à notre expérience. C'est notre expérience qui nous donne le contact direct avec la réalité. c'est l'expérience qui va directement en contact avec la réalité. Or, ce que nous cherchons à connaître, c'est l'homme. L'homme, c'est pour nous la réalité la plus parfaite. La plus grande expérience que vous pouvez faire, c'est de connaître l'homme. C'est vrai. C'est pas de connaître le cheval. Vous voyez, la philosophie consiste à connaître, pour moi, l'animal le plus noble, la réalité la plus noble, c'est le cheval. Donc toute ma philosophie va être centrée sur le cheval. Non, elle va être centrée sur l'homme. Pourquoi? Parce que je considère que l'homme est une réalité plus parfaite que le cheval. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'homme l'esprit. Et donc toute ma philosophie va revenir toujours à cette expérience de l'homme. Et j'essaierai de confronter ces opinions diverses avec l'expérience que j'ai de l'homme. Dans toutes ses dimensions. Ça, je crois que c'est très important de comprendre que la philosophie est centrée sur l'homme. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas regarder une philosophie première qui va être une métaphysique, qui va dépasser l'homme pour regarder ce qui est. Mais l'homme, il est bien ce qui est. Il est même parmi toutes les réalités qui existent, la réalité qui existe de la manière la plus parfaite. Parce que l'homme existe comme une personne. La manière d'exister de l'homme, c'est d'être une personne. Le cheval n'est pas une personne. Une manière d'exister, la manière d'exister. Alors, il faut voir la dignité de la personne. C'est une manière d'exister. Et c'est vrai, c'est une manière particulière d'exister. Or, toute la philosophie est centrée sur cette recherche de la personne humaine. Parce que si je ne regarde que l'homme, sans regarder justement l'homme dans la lumière de la métaphysique, je ne découvrirai pas l'esprit. Et je ne pourrai pas découvrir la dignité de la personne. Donc, comprenons bien ça, ça c'est important. Les deux sources de la philosophie. Il faut tout le temps avoir les deux aspects. Il faut connaître ce que les philosophes ont dit avant, mais comprenons bien, si j'étais suffisamment intelligent, je n'aurais pas besoin de cette première source. Je dirais, c'est pas la peine. Évidemment, ce serait un peu orgueilleux. Hein. Alors c'est dangereux, quand l'orgueil s'y met, hein, on commence à avoir des nostalgies orgueilleuses. Parce que l'orgueil nous fait vivre des nostalgies et des promesses. L'orgueilleux a beaucoup de peine de vivre du présent. C'est le signe de l'humilité de l'intelligence, c'est d'accepter de vivre du présent, de se laisser mesurer par la réalité présente. Tandis que le passé et le futur peuvent très bien alimenter notre orgueil. Ça, c'est très curieux, c'est un fait. Alors, si j'étais suffisamment intelligent, je n'aurais besoin que de l'expérience. Je peux faire ma philosophie uniquement par l'expérience. L'expérience que j'ai de l'homme. Et l'homme, c'est moi. Bien évident. Jean-Jacques Rousseau le dit. L'homme, c'est moi. Regardez-moi, vous comprendrez ce que c'est que l'homme. Mais comme je suis suffisamment quand même humble, je dis l'homme, c'est pas uniquement moi. Parce que dans mon voisin, je vois quand même qu'il y a des côtés de l'intelligence que je n'ai pas. Il y a des facettes de l'intelligence multiples. Alors je suis obligé d'avoir l'expérience de l'homme plus profond. J'essaie de comprendre que de fait, l'homme, c'est pas uniquement moi. Mais d'une certaine manière, je pourrais tout découvrir en moi si j'étais suffisamment pénétrant dans mon intelligence. C'est en ce sens-là que le philosophe emporte toujours avec lui son laboratoire. C'est le grand avantage du philosophe. Il peut faire de la philosophie, même quand il est sur la route, dans le train, n'importe où. Même quand il dort. N'est-ce pas ? Il peut faire de la philosophie. Parce qu'il emporte son laboratoire avec lui. Tandis qu'un historien, il faudrait emporter sa bibliothèque. Un historien ne peut rien faire quand il n'a pas de bibliothèque. Hein. Il est cloué. Parce qu'il ne va pas inventer le passé. Tandis que je peux redécouvrir toute la dimension de l'être en me regardant. C'est extraordinaire, ça. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'arriver à comprendre que l'homme tel que je suis, tel que vous êtes, chacun d'entre nous, découvrant la dimension de l'homme en profondeur, il découvre tout. Ce que les Grecs avaient très fort, hein, le petit cosmos et le grand cosmos. C'est ça qui est très extraordinaire. C'est par l'homme que je rejoins Dieu. Et donc, en me regardant en profondeur, je redécouvre Dieu. Je n'exclus pas. En me regardant en profondeur, je vois toute l'espèce humaine. Mais il faut faire un petit peu attention, c'est que j'ai besoin quand même des autres parce que je ne suis pas assez intelligent, étant donné mon conditionnement. C'est que l'homme, normalement, est lié aux autres. Bon, ceci, c'est pour vous rappeler les deux sources. Si maintenant je suis un tout petit peu attentif, justement, à ces trois expressions métaphysique, philosophie première et ontologie, je vois que, en gros, ma situation actuelle, au point de vue philosophique, elle est celle-ci. C'est que la philosophie occidentale a commencé par la Grèce. C'est un fait. Et les Grecs ont cet immense avantage, c'est qu'ils ont été les premiers. Toujours un avantage d'être les premiers. Les premiers à réaliser ce que nous appelons une philosophie. Je ne veux pas dire que c'est les premiers qui ont été intelligents. Non, les premiers qui ont élaboré une philosophie pour notre monde occidental. Pour notre monde occidental. Ils ont élaboré une philosophie en essayant, à travers les traditions religieuses, de découvrir le logos grec. Le logos grec, ce n'est pas le logos de Saint Jean, hein, faisons attention. Saint Jean aussi, hein, au début de l'évangile, parle du logos. On a traduit verbe. Ne traduisons pas ce logos grec verbe, traduisons tout simplement le fruit de notre réflexion philosophique. On cherche à connaître la réalité et à la connaître en profondeur. Donc, toute la tradition grecque est le point de départ. C'est pour ça que Merleau-Ponty dit que la philosophie grecque représente pour nous les sources. Les sources, le fondement. C'est à la fois source et fondement. Et c'est vrai que dans la philosophie grecque, 600 ans avant Jésus-Christ, 400 ans après Jésus-Christ, à peu près, quoi, 600 ans avant Jésus-Christ, et puis 300 après Jésus-Christ. Donc ce qui représente à peu près 1000 ans. La philosophie grecque s'étend à 1000 ans, à peu près. Alors, dans cette philosophie grecque qui s'étend de Hésiode à Proclus, d'Hésiode à Plotin, et puis la successeur de Plotin, Proclus et Damasus, donc d'Hésiode à Proclus, on peut dire que ça représente 1000 ans. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que dans ces 1000 années, pas le 1000 ans de l'Apocalypse, hein, mais dans ces 1000 ans, toutes les positions philosophiques que vous retrouvez aujourd'hui ont déjà été soutenues. Ça, c'est très intéressant à voir ça. C'est très curieux à voir ça. Et alors, il faut bien comprendre que cette philosophie s'élabore face aux traditions religieuses, face à l'art, face aux mathématiques. On découvre une pensée philosophique qui est autre chose que les traditions religieuses, autre chose que la connaissance artistique et que l'art, autre chose que les mathématiques. Parce que les mathématiques et l'art et les traditions religieuses sont antérieures à la philosophie. Ça, il faut toujours se rappeler ça. L'homme n'est pas premièrement philosophe. Il est premièrement un animal religieux. Et je dis bien un animal religieux, parce que ça fait des traditions religieuses. Nous sommes enracinés par nos traditions religieuses. C'est pour ça que nous sommes déracinés aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que l'humanité ne sait plus où elle va. Elle est déracinée. Parce qu'elle n'a plus de traditions religieuses. Les seuls pays qui ont encore des traditions religieuses sont beaucoup plus enracinés. Alors, les traditions religieuses ne suffisent pas. L'homme cherche à réaliser quelque chose, l'art. Et les traditions religieuses vont très très vite engendrer l'art. Je crois que l'art est d'abord lié aux traditions religieuses. Ça, c'est la grande position de Desfontaines et je crois que c'est juste. C'est que l'art, l'invention de l'art, l'efficacité, la transformation de la matière est d'abord religieuse. C'est à l'intérieur des traditions religieuses que l'art va s'élaborer. Et c'est à l'intérieur de ces traditions religieuses et de l'art que va s'élaborer les mathématiques. Les mathématiques, c'est les premières connaissances spéculatives. Et ça, c'est très important de voir ces trois aspects. tradition religieuse, art, mathématiques. Vous savez, cette fameuse phrase d'Aristote à propos des mathématiques, que je cite souvent parce que je la trouve admirable, les mathématiques sont nées en Égypte à cause de la caste sacerdotale qui avait des loisirs. On voit très bien ce que ça veut dire. Donc les mathématiques sont nées grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Il faut un peu de loisir, un peu de recul pour faire des mathématiques. Parce que les mathématiques, c'est quand même la première connaissance spéculative. Alors, la médecine est née aussi très vite, hein, mais elle est née comme un art, beaucoup plus qu'une science. Ça, c'est moderne, la médecine-science. Tandis que la médecine est née d'abord comme un art, et elle est à l'intérieur. On comprend très bien. Entre le sorcier et le médecin, on ne sait pas très bien, évidemment. Alors, c'est lié à l'art, c'est lié aux traditions religieuses. Il est un peu toujours un sorcier, un médecin, parce qu'il sait beaucoup de choses que les autres ne savent pas. Et il sait ces choses en priant, il sait ces choses on sait très bien, alors c'est lié, c'est très curieux. Tradition religieuse, art médical, et puis les mathématiques. Et alors, face à cela, le point de vue philosophique. Et le point de vue philosophique, c'est pour donner à l'homme son autonomie. C'est ça que la philosophie est à la fois une chose terrible, parce qu'elle risque de supprimer l'enracinement religieux. C'est de fait ce qui est arrivé, il faut bien le voir. La philosophie a donné le point de départ de l'athéisme. Donc l'opposition aux traditions religieuses. Et les premiers athées en Grèce, c'est juste avant Socrate, ce sont les sophistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on considère que les sophistes, ce sont des très grands hommes. Parce que ce sont les ancêtres de l'athéisme contemporain. Ce sont les premiers qui se sont opposés aux traditions religieuses en disant que les traditions religieuses ne signifient rien du tout. En réalité, l'homme commence à partir du non-être. Alors c'est le primat du non-être qui existe déjà chez les sophistes, donc juste avant Socrate. C'est très vrai que l'autonomie peut être quelque chose de magnifique pour aller plus loin, mais l'autonomie peut être aussi quelque chose de terrible parce qu'elle peut s'opposer à la dépendance religieuse. C'est que la philosophie est vraiment une arme très dangereuse, mais en même temps magnifique, puisque c'est d'essayer de redécouvrir au plus intime de nous-mêmes ce qu'il y a de plus divin. Alors, en philosophie grecque, nous trouvons toutes les positions. Toutes les positions sont découvertes en philosophie grecque. Deuxième moment pour notre tradition, c'est de voir ce qu'on appelle l'âge des pères de l'Église et des théologiens. Alors, c'est le grand problème de la foi chrétienne, de la foi judaïque et de la foi musulmane. Parce qu'on a le même problème, hein. Il y a les trois fois, n'est-ce pas ? La foi judaïque, la philosophie a commencé par la foi judaïque, sinon. Puis la foi chrétienne et enfin la foi musulmane. Vous avez là un très gros problème, le problème de la foi face à la philosophie. Et le problème de la foi face à la philosophie fait que la philosophie va être mise servante de la foi. Et ça va être une chose très étonnante de voir comment la philosophie sagesse, c'est la philosophie qui sagesse, elle nous donne l'autonomie, comment la philosophie sagesse peut-elle être mise au service de la foi ? Comment la sagesse peut devenir servante ? Et quand saint Thomas nous dit que la philosophie est servante de la foi, vous savez, c'est fameux de dire ça. Hein ? Je crois qu'on ne pouvait dire ça au sens absolu qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire au moment où la foi apparaissait dans toute sa splendeur et pouvait alors assumer toute la pensée philosophique au service de la foi. Aujourd'hui, quand on dit ça, les philosophes disent non. On ne peut pas mettre l'autonomie de l'intelligence au service de la foi, parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est que la foi, la grandeur de la foi. On oublie que la foi, elle est divine. Alors, si elle est divine, elle ne tyrannise pas. Le divin ne tyrannise jamais. C'est l'humain qui tyrannise. Le divin ne tyrannise pas. Si la foi est divine, elle ne tyrannise pas la philosophie. Au contraire, elle lui laisse toute son indépendance et toute son autonomie. mais en même temps, elle met l'intelligence au service de la foi. Alors là, il y a un âge très important, au sommet, on peut le dire, ça je crois que l'Église a toujours considéré comme ça, au sommet, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, je ne dis pas qu'il est seul, hein, faisons attention, mais c'est quand même celui qui représente le mieux ce problème de la foi qui assume la philosophie. C'est ça que Thomas d'Aquin représente un sommet. Là. Vous voyez ? Dans la philosophie grecque, on ne peut pas dire qu'il y a un sommet analogue à Thomas d'Aquin. Il y a Platon, Aristote, Plotin. Il y a trois sommets. Je crois qu'il faut mettre trois sommets dans la philosophie grecque. Hein. Aristote, Platon, Aristote, Plotin. Tandis que du côté des pères de l'Église et des théologiens, on peut dire que saint Thomas d'Aquin représente vraiment un sommet. Vous pourriez dire qu'à côté de Thomas d'Aquin, il y a saint Bonaventure, qu'à côté de Thomas d'Aquin, il y a Albert le Grand, alors vous retrouveriez les trois. Non, je veux bien, c'est pas faux. Faut pas vouloir chicaner indéfiniment. Troisièmement, alors, l'âge de la libération de l'intelligence et de la philosophie par rapport à la théologie. Problème de Descartes. Très important. Vous voyez, ce troisième moment, hein, il y a une espèce de... Il ne faut pas voir ça dialectiquement, mais il y a quand même quelque chose de très curieux à voir. Comment la théologie qui domine, la théologie qui est vraiment... On ne peut pas nier que notre culture, telle que nous la vivons, a son enracinement dans la Grèce, mais elle est chrétienne. Elle a été christianisée. Elle a été christianisée, elle a été transformée par la foi. Alors, c'est pas commode d'accepter d'avoir comme grand-père des théologiens. Pas commode du tout. Et donc, on veut redécouvrir son indépendance. Et c'est pour ça que je dis, c'est l'âge de la libération. Vous savez, c'est très vieux, la libération. Hein. C'est l'âge de la libération de l'intelligence, et, disons, de la raison. C'est pas l'intelligence. De la raison, de l'entendement, libération de la raison par rapport à la théologie, par rapport aux théologiens. Les théologiens tiennent tout dans un carcan terrible, il faut libérer la raison et redécouvrir la certitude que donne la raison. Alors c'est très curieux, voyez, on pourrait dire que pour la Grèce, la philosophie recherche la vérité. Pour les pères de l'Église, la philosophie est mise au service de la foi, qui nous donne la vérité absolue, la vérité première. Et pour Descartes, on cherche la certitude. C'est pas tout à fait la même chose. Depuis Descartes, la philosophie ne recherche plus la vérité. Je me souviens, c'était la réflexion, je ne sais pas c'est qui, parce qu'il vit encore, c'était un étudiant de Sorbonne, il avait fait 8 ans de Sorbonne, il était... agrégatif, c'est vraiment l'étudiant de Sorbonne, complètement, ça date déjà d'il y a 30 ans. Alors quand il est entré dans l'ordre, on lui a demandé quel est le professeur que vous avez le mieux aimé en Sorbonne. Alors il a réfléchi quelques minutes, et puis il a dit aucun. On a dit pourquoi ? Aucun ne cherchait la vérité. C'était assez beau, et assez terrible. Aucun ne cherchait la vérité. Alors il dit quand même, aucun de vos professeurs, non, aucun. Il ne cherchait plus la vérité. Et c'est pour ça que je ne les ai jamais considérés comme des philosophes. Parce qu'ils ne cherchaient pas la vérité. Et c'est vrai que depuis Descartes, on cherche la certitude. Oui, on cherche la certitude, on ne cherche plus la vérité. Parce que la vérité, elle nous donne la certitude. C'est sûr qu'elle nous donne la certitude. Mais la vérité exige des risques constants. Tandis que la certitude, la première chose, c'est en ce sens-là qu'on dira que Descartes est petit bourgeois. Et c'est vrai d'une certaine manière. Parce que c'est une philosophie qui se replie sur elle-même. Et alors, c'est très important de comprendre cela, cette libération de la raison par rapport à la théologie. Descartes cherche cela, à se libérer de la foi. Descartes reste croyant, mais il veut se libérer de la théologie. Il a eu comme professeur des théologiens, des pères jésuites, il a eu comme professeur des théologiens et il a voulu redécouvrir une indépendance profonde de la foi, une indépendance profonde de la raison. Alors, c'est important de comprendre ce problème-là. parce que face à ce problème, on a voulu redécouvrir, c'est ça que je veux mettre ici en lumière, on a voulu, à travers les théologiens et les pères de l'Église, redécouvrir la philosophie qui était devenue servante. On a voulu donc laïciser la pensée philosophique contenue dans Thomas d'Aquin. Face à Descartes, on a voulu maintenir le thomisme. Vous comprenez bien. Le thomisme au niveau philosophique. On a voulu maintenir une pensée traditionnelle à travers toute cette libération de la raison. C'est dans ce sens-là qu'on a eu deux mondes différents, l'un à côté de l'autre. Le monde d'une pensée classique et traditionnelle au niveau philosophique, qui était le thomisme, sous toutes ses formes. Hein, parce que le thomisme, ça recouvre des tas de choses. Hein. Et le thomisme, c'était quoi? C'était une philosophie puisée à travers les théologiens. Puisée à travers la théologie de saint Thomas. Le modèle, c'est Suarez. Suarez représente très très nettement ça, le désir de découvrir une philosophie qui soit à l'intérieur de la théologie, on laïcise la pensée théologique. Et on veut redécouvrir à l'intérieur de la philosophie, de la théologie, on veut redécouvrir une pensée philosophique. Il y a une pensée philosophique dans saint Thomas, mais saint Thomas est théologien. Saint Thomas n'a pas l'intention de faire une philosophie, il est théologien, mais il se sert d'une philosophie. Donc, vous voyez bien, la sagesse est venue servante. Pensez au lavement des pieds. Hein? Jésus, maître et seigneur, qui quitte son manteau et prend le tablier du serviteur. Et puis, il fait le lavement des pieds. Bien, la théologie a s'est servie de la philosophie comme servante. On veut redécouvrir la philosophie à partir de la servante. Alors, on redécouvre quelque chose qui n'a pas d'ordre propre. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Quelque chose qui n'a pas d'autonomie. On redécouvre des éléments de philosophie. C'est bien évident. On redécouvre la servante. Mais la servante, elle n'est digne que dans son service. Elle n'a pas de dignité par elle-même. Et on ne redécouvre plus dans le thomisme, c'est ce qu'il faut bien comprendre, on ne redécouvre plus dans le thomisme la sagesse philosophique. On redécouvre que des éléments de la philosophie. Et c'est pour cela que cette philosophie thomiste, face à cette libération de la raison, elle ne pouvait pas lutter. Et à la place de continuer de maintenir une théologie tout simplement, on a voulu faire comme les autres. Et faire comme les autres, il fallait tout reprendre. Et pour tout reprendre, il fallait reprendre la dignité de la philosophie à partir de l'expérience. Et non pas simplement dire, mais oui, dans saint Thomas, il y a une philosophie, mettons entre parenthèses la foi, et puis découvrons tout simplement ce que saint Thomas nous dit. Alors on découvre des raisonnements, on découvre des définitions, mais on ne voit pas d'où ça vient. Et là, c'est ce qu'on a appelé la basse scolastique. Le thomisme s'est perdu dans la basse scolastique. Et là, on n'a plus eu la dignité de la sagesse et l'ordre de la sagesse. Eh bien, c'est à partir de là qu'on a appelé l'ontologie la métaphysique. L'ontologie est née à partir de cette laïcisation de la théologie. On a regardé tout simplement ontologia. On a essayé de réfléchir sur le contenu de l'être, des êtres, contenu dans une pensée théologique. Vous voyez ? Et là, c'est Wolff qui représente l'ontologie dans toute sa force. L'ontologie, de cette manière-là, c'est le point de vue de cette pensée philosophique dite thomiste, parce que l'ontologie est thomiste, hein ? Dite thomiste, du moins, elle se veut thomiste, elle ne l'est plus du tout. Alors, quelle différence y a-t-il? Et c'est ça qui est important à comprendre. L'ontologie naît à partir des idées. Pour Aristote, La métaphysique commence avec l'expérience. La philosophie commence à partir de l'expérience. Pour les théologiens et les pères de l'Église, ils ont le réalisme de la foi. Et la foi implique un jugement d'existence. Ils ont le réalisme de la foi. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, il y a le réalisme il y a tout le réalisme de ce que représente la foi, qui nous fait toucher le réel, ce qui nous fait toucher Dieu. Et la sagesse philosophique peut alors être utilisée en mettant entre parenthèses le jugement d'existence, en mettant entre parenthèses l'ordre propre de la philosophie, en mettant entre parenthèses les principes propres de la philosophie, et la seule chose qu'on garde, c'est les idées. Quand je laïcise la pensée philosophique à partir de la théologie, je redécouvre les idées. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ontologie, ça commence à partir de l'idée d'être. Suarez nous dit que la métaphysique commence à partir de l'idée d'être. À la place de commencer à partir de l'expérience, je commence à partir des idées d'être, à partir des notions tout à fait premières, les idées. J'ai une idée d'être et à partir de là, je vais pouvoir tout développer. Vous comprenez qu'une telle métaphysique et une telle ontologie n'est plus du tout réaliste, puisqu'elle commence à partir des idées. Alors vous aurez donc quelque chose de très analogue à la libération de la raison, parce que Descartes, ça commence par les idées. C'est l'idée d'infini. Vous avez donc deux sortes d'idéologies qui vont lutter l'une contre l'autre. L'idéologie à la manière de Descartes, l'idéologie à partir de l'ontologie. Et ces deux idéologies vont lutter contre l'autre jusqu'à la philosophie hegélienne. Alors je crois que je voudrais mettre un quatrièmement la philosophie hegélienne. Si je ponctue. Ceci c'est pour que vous compreniez mieux ce que représente l'ontologie. Comment l'ontologie est née à partir d'une laïcisation de la pensée des théologiens, et spécialement saint Thomas. Quatrièmement, Hegel. Je crois que Hegel représente, et ça tout le monde le dit, et c'est une vérité, Hegel représente pour notre monde d'aujourd'hui une philosophie analogue à celle d'Aristote pour tout ce qui a été après Aristote. Autrement dit, Hegel, c'est celui qui nous donne un nouveau système philosophique absolument complet. Mais ce système philosophique est commandé par une dialectique. Parce que ce système philosophique commence par les idées, par les concepts. L'hégélianisme, c'est le développement de la raison par la raison. C'est la raison qui, en réfléchissant sur elle-même, découvre la possibilité de progresser à l'infini. Et c'est pour ça que dans Hegel, au terme de sa philosophie, il considère que l'esprit égale Dieu. Hegel n'a jamais été un athée, mais il a été presque plus qu'un athée, parce qu'il considère que l'esprit est Dieu. Hegel est Dieu. En tant que philosophe, vous voyez comment la philosophie nous rend déiforme. La philosophie n'aura plus de place pour la révélation. Ça, Hegel le dit. Hegel, au point de départ, est un théologien, il ne faut pas l'oublier. Il était un théologien déçu. C'est très important de comprendre ça. Il est un théologien déçu. Il a fait ses écoles, son école protestante de théologie, et puis il a considéré que les théologiens étaient des imbéciles. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas du tout la même chose que de redécouvrir à l'intérieur de la théologie une pensée philosophique. C'est découvrir une pensée qui peut se développer pour elle-même. Et cette pensée qui se développe pour elle-même, c'est la raison qui réfléchit sur son propre processus, la dialectique. La dialectique, c'est le processus de l'intelligence. L'intelligence est capable d'affirmer nier. C'est ça toute la dialectique. Hein. Affirmation et négation. L'intelligence est capable d'affirmer et nier. Si l'intelligence est capable d'affirmer et nier, Donc l'intelligence de mousse, si vous voulez, est capable d'affirmer une idée. Il est donc au-dessus de l'affirmation et de la négation. C'est bien évident. Puisque je peux affirmer une idée, ça prouve que je suis au-dessus. Autrement, je ne pourrais pas affirmer une idée. Et donc, l'être n'est pas du tout dans la réalité. L'être, il est dans la possibilité d'affirmer une idée. Et donc, cette possibilité d'affirmer une idée va être le processus dialectique par excellence. Je vais nier pour pouvoir affirmer, je vais affirmer pour pouvoir nier. C'est évident que si vous n'affirmez pas, vous ne pourrez jamais nier. Et si vous ne niez pas, on ne peut pas affirmer. Donc il faut nier et affirmer constamment pour qu'il y ait un processus pour que l'esprit se découvre lui-même et se découvre au terme comme étant l'absolu étant Dieu. L'absolu, c'est la capacité d'affirmer nier. Donc c'est d'être au-delà de la contradiction. C'est ça l'absolu. Et l'absolu, vous le découvrez au-dedans de vous-même dans le propre processus de l'intelligence. L'intelligence est capable d'affirmer nier. Donc elle est au-delà de l'affirmation et de la négation. Elle est au-delà de l'affirmation et de la négation dans son processus même d'intelligence, de l'esprit. Alors, à partir de Hegel, on entre dans l'âge de la vie. Dans ce sens-là, que Hegel représente que Hegel n'a pas inventé la dialectique. Hein, la dialectique était avant lui. Mais il l'a systématisée d'une manière telle qu'avec Hegel, on ne peut plus penser en dehors de la dialectique. Et c'est vrai, ça. Aujourd'hui, on ne peut plus penser en dehors de la dialectique. Hein. C'est la seule chose qu'on accepte. Si vous dites que la dialectique est une chose fausse, on vous dit « Ah, vous n'avez plus le droit de parler. » c'est très absolu, ça. Et c'est le fruit, hein, de Descartes à Hegel. Je crois qu'il y a un lien, il y a une continuité. Alors, à partir de Hegel, c'est l'éclatement de la philosophie. Hegel va pousser la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie, qui n'est plus une philosophie, c'est une idéologie, si vous voulez, va pousser l'idéologie jusqu'au bout, qu'elle va devenir systématique, d'une façon absolue, ça va tout prendre, et tout va être recréé par la pensée. La pensée recrée tout par la dialectique. Elle reprend tout. Et elle recrée tout. Parce qu'on arrive à dire que l'esprit est Dieu. À partir de Hegel, on assiste à l'éclatement de la philosophie, des idéologies et des idéologies athées. Les idéologies athées viennent de Hegel. C'est, on peut le dire, que toutes les philosophies athées. Alors nous retrouvons ici toute la philosophie contemporaine qui va dans tous les sens. On ne sait plus où on va. Ça, je crois qu'on ne sait plus où on va. La philosophie athée aujourd'hui, du moins la philosophie d'aujourd'hui, les idéologies d'aujourd'hui vont dans tous les sens. Et on aime de s'opposer. Alors vous avez toutes les grandes idéologies athées qui sont nées à partir de là. Mais plus de métaphysique. C'est évident. La métaphysique est terminée. C'est ce que Heidegger dit. Heidegger dit, la métaphysique est terminée, il faut redécouvrir quelque chose de nouveau. Heidegger a raison, alors on pourrait mettre cinquième temps. Cinquième moment, Heidegger. Je crois que ça représente comme une volonté de renouveau. C'est ce qu'il y a de grand d'Heidegger. C'est une volonté de renouveau. Il s'agit de comprendre qu'on ne peut plus continuer à descendre le fleuve. On touche quelque chose d'ultime. Heidegger dit qu'avec Nietzsche, on découvre quelque chose d'ultime. On ne peut pas aller plus bas. Nietzsche dit « La métaphysique, c'est un mensonge. » Non, la métaphysique en prend un gros coup avec Nietzsche. Non, la métaphysique, c'est un mensonge. Parler de l'être, c'est un mensonge. Parce que si vous parlez de l'être, vous faites une distinction entre le visible et l'invisible. Or, si vous faites une distinction entre le visible et l'invisible, vous relativisez le visible. Et le visible n'est plus l'absolu. Or, le visible est l'absolu. Donc, vous ne pouvez plus parler de l'être. Maintenir une métaphysique, c'est un mensonge. Il faut faire disparaître la métaphysique et ne chercher plus qu'une volonté de puissance. Une volonté de puissance, c'est transformer l'univers pour faire le surhomme. Vous voyez, c'est très analogue, hein, c'est très analogue avec la parole de Marx. Marx dit, jusqu'ici, les philosophes ont voulu penser, ils n'ont pas transformé l'univers. Nous, nous voulons transformer l'univers. Autrement dit, on assiste à la faillite complète de la pensée pour ne plus voir que l'action. Et c'est ce qui explique comment, au fond, aujourd'hui,
on met la pastorale avant la théologie. On ne veut plus penser, on ne veut plus se former, on veut simplement agir et transformer et trouver des méthodes d'action. Et c'est exactement, c'est un lien avec Marx et Nietzsche, parce que les deux sont catégoriques là-dessus. La pensée pour la pensée, c'est-à-dire la recherche de la vérité, c'est un non-sens, c'est une perte de temps. Et c'est même un mensonge. Il faudrait agir. Il faut agir pour transformer l'univers. Transformer l'univers à la manière de Marx. Alors vous comprenez qu'on comprend très bien comment le système de Marx aboutit nécessairement au bout d'un moment uniquement à l'armée. Le communisme doit s'achever dans l'armée. Parce qu'il s'agit de transformer. Transformer les hommes et les dominer. Or, on ne peut transformer les hommes et les dominer que par la puissance. Et là, c'est la puissance, la volonté de puissance. La volonté de domination. C'est dans ce sens-là qu'on voit un lien entre Marx et Nietzsche. Bien qu'ils s'opposent profondément, Nietzsche n'est pas du tout marxiste, mais de fait, ils se rejoignent parce que tous les deux rejettent la recherche de la vérité et ne voient que l'action. Alors, face à cette philosophie qui se disparaît complètement, Heidegger dit « On est tombé si bas qu'il faut tout reprendre. » Et c'est ça qui est beau, c'est un renouveau. On est tombé si bas qu'il faut tout reprendre. Alors, tout reprendre, comment tout reprendre? Alors, Heidegger est quand même dépendant, il a été formé par Hegel, il a été formé par Kant. Alors, tout reprendre, comment ça se fait? Il va essayer de revenir au grec. On revient à la source. Le retour au berceau. Quand on a peur du réel, on retourne au berceau. C'est évident, le retour au berceau. Et il y a un retour au berceau chez Heidegger. On retourne à Parménide. On retourne à Anaximandre. Oui. C'est un retour au berceau. On a peur du réel. Et Heidegger essaie, par ce retour au passé, par un procédé qui reste dialectique, de redécouvrir l'être. Il dit, les étangs que je vois, que le savant étudie, la science étudie les étangs, c'est-à-dire tout ce qui apparaît, tout ce qui est visible, tout ce qu'on peut mesurer. Il faut redécouvrir quelque chose de plus profond. Il faut redécouvrir l'être. L'être avec un grand T. Il faut redécouvrir l'être. Il faut penser l'être. Il faut redécouvrir une ontologie fondamentale. Voilà le dernier mot. Le dernier mot, c'est Heidegger. Ça, c'est évident. C'est le point d'ordre. N'est-ce pas, au point de vue de l'histoire de notre philosophie. Heidegger dit qu'il faut redécouvrir l'être. Redécouvrir l'être à partir du néant. Vous voyez, là encore, on voit très bien que Heidegger est trop influencé par Nietzsche, est trop influencé par cette philosophie de l'action. Parce qu'au fond, il sait très bien que le propre de Dieu, c'est de poser l'être à partir de rien. Créer ex nihilo. Heidegger est théologien au point de départ, hein, faut pas l'oublier. Heidegger est croyant au point de départ. Heidegger était catholique. Bon, il est passé vers le luthérianisme, il a été très séduit par Luther, très très séduit, il a été très séduit par Maître Eckhart, dominicain, et il a été très séduit par Luther. Et alors, il a essayé de dire, il faut repenser toute chose à partir de rien. Et donc, au fond, la position du créateur, la métaphysique pour lui, c'est comme une création. Il faut recréer, il ne le dit pas, hein, ça, mais il faut recréer l'être à partir de rien. Et donc, c'est à partir du rien qu'on va penser l'être. Et puis, c'est tout. Penser l'être. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il n'y a plus d'analyse, il n'y a pas de contact avec la réalité, c'est penser l'être à partir de rien. Il faut nier tous les étangs, il faut rejeter tous les étangs pour penser l'être. Et alors, on va penser l'être comme ce qui est la source de tout. Je ne suis vrai. Vous voyez la nostalgie du paradis perdu. Hein. Penser l'être. Le paradis perdu ici, c'est le paradis de l'esprit. Et l'esprit n'est lui-même que quand il pense l'être. Et je pense l'être en niant tout le reste pour redécouvrir l'absolu. Alors, c'est l'ontologie fondamentale. Ceci, c'est pour vous faire comprendre, voyez, comment métaphysique, philosophie première, ontologie ponctue assez bien, il faudrait mettre philosophie première, métaphysique, ontologie, ponctue assez bien toute l'histoire de notre pensée. Et l'histoire de notre pensée, je crois qu'il faut la ponctuer de cette manière que je vous disais tout à l'heure. La philosophie grecque, le père de l'Église et les théologiens, ça continue toujours, le père de l'Église et les théologiens, puis Descartes, et puis Hegel, et Heidegger. C'est leur choix. En 30 minutes, très bien. Alors, nous sommes donc en face avec Heidegger du renouveau, vous voyez. Alors on peut penser, c'est très vrai, je crois que c'est très très vrai ce que dit Heidegger, mais Heidegger ne prend pas son renouveau à partir de l'expérience, il le reprend à partir des Grecs et dans une perspective dialectique. Et c'est là où Heidegger ne peut pas le suivre. Non, mais on peut se servir de lui, parce que c'est comme, si vous voulez, un signal d'alarme. Pour moi, c'est ça, Heidegger. C'est un signal d'alarme. C'est une trompette du jugement dernier au point de vue métaphysique. Heidegger dit, la métaphysique, c'est terminé. N'en parlons plus, elle a joué son temps. Il s'agit pour nous uniquement penser l'être et attendre que Dieu vienne. C'est très extraordinaire. Penser l'être, c'est ça. On pense l'être pour attendre que Dieu parle. Et on attend que Dieu parle, c'est-à-dire on attend que Dieu revienne. Et c'est fini, on ne peut plus rien faire d'autre. Il y a un désespoir dans la vie. Il y a un très grand désespoir. Parce qu'au fond, on se désarme. On ne peut plus rien faire. Devant ce monde qui a été tellement loin dans la corruption, qui a été tellement loin dans le mensonge de la pensée, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre l'être. Attendre Dieu. On pense l'être pour attendre Dieu. Parce que l'être que nous saisissons, l'être que nous créons dedans de nous-mêmes à partir du rien, eh bien cet être nous permet d'attendre la révélation de Dieu. Et à ce point de vue-là, c'est très très différent de Hegel, vous voyez. Heidegger est resté jusqu'au bout un chrétien. Vous savez, il est mort chrétiennement, il est mort dans l'Église catholique. Il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que...